France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. 400 millions de barils de pétrole pour faire baisser les cours. Une trentaine de pays décident d'utiliser leurs réserves stratégiques alors que l'Iran bloque le détroit d'Ormuz. Nous ferons le point avec Sandrine Etoa dans un instant. Donald Trump, lui, continue d'annoncer la fin prochaine du conflit. Mais les difficultés s'accumulent pour le président américain. La résistance iranienne est bien plus forte que prévu. La Biennale d'art contemporain de Venise veut accueillir une délégation russe malgré l'invasion de l'Ukraine. Le gouvernement italien n'est pas d'accord, l'Union européenne non plus. La polémique prend de l'ampleur, nous dira Bruno Duvic, notre correspondant à Rome. La campagne des élections municipales nous emmène ce soir à Nîmes, le dernier bastion du Parti Les Républicains dans les villes de plus de 150 000 habitants. La droite nîmoise part divisée face à la gauche et au Rassemblement national. Au 12e jour de la guerre au Proche et au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz est devenu l'épicentre du conflit. C'est l'atout maître des Iraniens pour résister à l'offensive israélo-américaine. L'Iran, qui contrôle le détroit en menaçant d'attaquer tous les pétroliers qui tenteraient de le traverser. Résultat, un trafic interrompu, sauf pour les navires amis du régime des Mollahs et les cours du pétrole qui s'envolent sur les marchés mondiaux. Alors pour tenter d'inverser la tendance, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a décidé de débloquer 400 millions de barils issus des réserves stratégiques. La France participe à l'effort en puisant un peu plus de 14 millions de barils dans ses réserves. Emmanuel Macron l'a annoncé tout à l'heure à l'issue d'une réunion en visioconférence des pays du G7. Sandrine Etoa, bonsoir.
Bonsoir.
Ce recours massif aux réserves stratégiques est une décision historique.
Oui, une décision prise à l'unanimité dans le cadre du G7 qui représente 70% des réserves de pétrole contrôlées par l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, compte 32 pays dont la France. 400 millions de barils de pétrole, c'est un tiers de ces stocks stratégiques. À circonstances exceptionnelles, décision exceptionnelle, il s'agit de la plus grande libération de stocks pétroliers d'urgence de l'histoire de l'Agence internationale de l'énergie. Emmanuel Macron.
Ces 400 millions de barils, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente environ 20 jours de sortie de barils par le détroit d'Ormuz. Donc c'est significatif. Nous allons le faire de manière organisée dans les prochains jours, ce qui envoie un signal clair pour faire baisser les prix mondiaux.
Remettre du pétrole sur le marché pour faire mécaniquement baisser les prix. Mais pour l'instant, cette annonce de libération massive de stocks de pétrole, elle n'a pas d'effet. La pression ne retombe pas. Le baril de Brent, la valeur de référence, est même reparti à la hausse, plus 5% dans l'après-midi, au-dessus des 91 dollars. D'autres pays n'ont pas attendu les annonces officielles du G7 pour puiser dans leurs réserves de pétrole. Ce sera dès lundi prochain, a annoncé le Japon, dont 70% des importations de pétrole passent par le détroit d'Ormuz. Idem pour l'Allemagne, qui va utiliser 12% de ses réserves stratégiques, soit 2,4 millions de tonnes.
Sandrine Etoa, de la rédaction internationale de Radio France. Pour libérer le détroit d'Ormuz, les États-Unis vont-ils mener une opération militaire spécifique? Un indice ce soir, l'armée américaine avertit les civils iraniens de s'éloigner des ports du détroit où opèrent les forces navales iraniennes. Donald Trump, lui, continue de suggérer que la fin de la guerre est proche. Il ne reste pratiquement rien à frapper en Iran, affirme le président américain dans une interview au site Axios. Mais malgré ses succès militaires, le locataire de la Maison Blanche est confronté à plusieurs difficultés, Franck Madvon.
L'une des principales préoccupations pour Washington, c'est la situation dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% environ du pétrole de la planète. L'Iran exerce de facto un blocus sur ce point de passage stratégique. Hier, les États-Unis ont annoncé avoir détruit 16 bateaux iraniens poseurs de mines, mais au moins 3 navires ont été frappés aujourd'hui, des frappes attribuées à l'Iran. L'une d'elles a d'ailleurs été revendiquée par les gardiens de la Révolution. Manifestement, l'administration Trump n'avait pas prévu une telle capacité de nuisance de l'Iran dans le détroit d'Ormuz et un tel impact sur les cours du brut, avec à la clé un plein d'essence plus cher pour des millions d'Américains. À cela s'ajoutent quelques revers militaires. Le New York Times a fait les comptes, au moins 17 sites américains ont été touchés au Moyen-Orient depuis le début de la guerre. Des bases, des radars, parfois les dégâts sont très importants. 7 soldats ont aussi été tués et 140 blessés, dont 8 grièvement. La guerre a donc un coût. Donald Trump martèle que les objectifs sont presque tous atteints, mais l'Iran bouge encore et il n'annonce pas la fin de la guerre. D'ailleurs, en a-t-il les moyens ? rien ne dit que Téhéran arrêtera ses opérations si Washington met fin aux siennes.
Franck Madvon, correspondant de France Culture aux États-Unis. Depuis le début du conflit, des milliers d'Iraniens ont quitté leur pays pour échapper aux bombes israélo-américaines. D'autres font le chemin inverse, parfois pour soutenir le régime. Nous partons à Istanbul, en Turquie, un pays qui partage une longue frontière avec l'Iran. Chaque jour, dans la métropole turque, entre 100 et 200 personnes prennent un autocar pour rejoindre Téhéran, 2500 kilomètres plus loin. Elles n'ont pas le choix, car les liaisons aériennes avec la capitale iranienne sont interrompues. Marie-Pierre Véraud est allée à leur rencontre.
Ils ont chargé leurs valises à bord de trois grands bus blancs et attendent le départ vers Téhéran, un périple de plus de 30 heures. La plupart disent qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont peur, mais leur famille est en Iran et c'est leur pays, comme ce jeune couple.
Toute ma vie est là-bas, alors je veux y être, quoi qu'il arrive. Je ne peux pas dire que je n'ai pas peur, mais on préfère tout de même rentrer pour être aux côtés de nos familles et de nos amis. Et en dépit de tous les bombardements, survivre à cette guerre et participer à l'avenir, quel qu'il soit, faire en sorte qu'il soit meilleur.
Personne n'aime la guerre et nous ne pensons pas que les bombes vont nous donner un avenir. Mais nous vivions dans une situation très difficile.
Les mots sont choisis. Pas question de critiquer ouvertement le régime, d'autant que Nome, non loin, nous observe et nous filme. Lui aussi s'apprête à embarquer pour Téhéran.
C'est notre devoir d'accomplir notre tâche dans cette guerre pour notre patrie. Je vais la rejoindre. La guerre peut durer 10 ans. Nous avons des bombes, des fusées. On va éliminer les Israéliens et les Américains.
Mais l'immense majorité de ces Iraniens n'espère qu'une chose, la chute des mollahs. Il faut un changement, nous disent-ils. Juste avant de s'engouffrer dans son bus, un jeune nous lance.
Bombs are scary, but the mullahs are more scary.
Les bombes sont effrayantes, mais les mollahs encore plus.
Le reportage à Istanbul de Marie-Pierre Véraud. Les eurodéputés réunis en session plénière au Parlement européen à Strasbourg ont débattu ce matin de cette guerre au Proche et au Moyen-Orient et de ses conséquences économiques. Un débat dominé par une question: comment défendre les intérêts de l'UE sans pour autant prendre une part active à un conflit que l'Union n'a pas déclenché? Et beaucoup d'élus contestent la légalité de cette guerre du point de vue du droit international. On retrouve à Strasbourg Fabien Cazot.
Surtout ne pas devenir belligérants actifs dans le conflit au Moyen-Orient. C'est la priorité absolue pour l'eurodéputé socialiste espagnol Iratxe García Pérez, parfaitement aligné sur son premier ministre Pedro Sanchez.
Non à la guerre.
Non à la guerre, oui au droit international. C'est ce qu'expriment en masse les citoyens européens.
À l'autre bout de l'hémicycle, dans les rangs de la droite nationaliste proche de Giorgia Meloni, Nicola Procaccini insiste davantage sur les répercussions économiques du conflit.
Face à l'augmentation du prix des carburants et de l'énergie, nous devons défendre la santé économique des ménages et des entreprises.
L'Europe, victime collatérale du conflit au Moyen-Orient, la centriste Valérie Ayer se montre dubitative sur les buts de guerre poursuivis par les États-Unis et Israël.
Le régime iranien, il est toujours debout et il riposte. Il bombarde nos alliés. Et pire, il attaque Chypre, un État membre de l'Union européenne. L'Europe doit se faire respecter.
Et accélérer en même temps sa quête d'indépendance énergétique, estiment de nombreux eurodéputés, grâce aux énergies renouvelables et au nucléaire.
Fabien Cazot depuis le Parlement européen à Strasbourg. En France, le conflit impacte directement les agriculteurs. Alors que la saison des semis débute, ils doivent composer avec des engrais beaucoup plus chers en raison de la hausse des cours du pétrole. Le prix de l'urée, un engrais azoté, a ainsi augmenté de près de 30% au niveau mondial la semaine dernière. Une situation dont s'alarme Quentin Le Guillou. Il est secrétaire général du syndicat des jeunes agriculteurs.
Sur les engrais azotés, hein, ces engrais minéraux, donc qui sont faits en grande partie raffinés par des produits pétroliers ou par le gaz. Donc quand le gaz se retrouve impacté, les prix des engrais flambent. Des prix qui ont pris presque plus de 100, 150 euros de la tonne. À titre d'exemple, on l'achetait 350 au 15 février. Aujourd'hui, on l'achète 450 pour une certaine forme d'engrais. Donc voilà, on a des prix vraiment qui ont explosé. Aujourd'hui, on a tendance à voir une forme un petit peu de spéculation parce que on avait les stocks il y a 15 jours avant la guerre. Et aujourd'hui, les stocks sont toujours là. On a juste besoin de remplir nos cuves. On est en pleine période des épandages hein, sur les grandes cultures, colza, blé, orge et un peu partout, hein, préparation du maïs, etc. Et en face de ça, bon bah malheureusement, alors pour ceux qui ont pu remplir leurs cuves et anticiper dans l'hiver, tant mieux pour eux. Mais pour d'autres qui doivent se réapprovisionner là en ce moment, bah, les prix sont plus du tout les mêmes et la rentabilité, elle aussi.
Quentin Le Guillou du syndicat des jeunes agriculteurs répondait à Lou Momège. Sachez enfin que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, réunissait cet après-midi à Matignon les responsables des principaux partis politiques pour faire le point sur la guerre au Proche et au Moyen-Orient et sur les conséquences du conflit sur l'économie française. La France qui a déployé en Méditerranée orientale le porte-avions Charles de Gaulle. Lundi, Emmanuel Macron avait proposé, je cite, une mission purement défensive pour libérer le détroit d'Ormuz. Lentement mais sûrement, la Russie revient dans les grands événements internationaux dont elle était bannie depuis l'invasion de l'Ukraine. Des athlètes russes mais aussi biélorusses participent en ce moment sous leur drapeau aux Jeux paralympiques d'hiver en Italie. Autre exemple, toujours en Italie, la Biennale de Venise veut inviter la Russie à sa prochaine exposition d'art contemporain qui débute le 9 mai. Les artistes russes avaient été écartés des deux dernières éditions, organisées depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais cette fois, le président de la Biennale de Venise défend leur invitation au nom de l'art comme facteur de dialogue et refus de la censure. On retrouve à Rome Bruno Duvic, bonsoir.
Bonsoir.
Bruno, la présence d'une délégation russe est critiquée en Italie comme à l'étranger. Les protestations sont de plus en plus nombreuses.
Le gouvernement italien, le gouvernement ukrainien, la commission de Bruxelles et 22 ministres européens de la culture et des affaires étrangères. Voilà la troupe des adversaires de Pietrangelo Buttafuoco, l'imprévisible président de la Biennale. Dans leur lettre, les ministres européens dénoncent le risque que la Russie utilise sa présence à Venise comme moyen de légitimation. Kiev lui demande de revenir sur son choix en arguant que la Russie a tué 346 artistes ukrainiens et étrangers depuis le début de la guerre. Quant à la Commission européenne, elle menace de revoir certaines subventions à la Biennale. En Italie, l'affaire oppose deux hommes nommés tous deux par Giorgia Meloni, car le ministre de la Culture, Alessandro Giulia, est hostile au choix de Buttafuoco. Il craint une opération de propagande russe en mai prochain dans le pavillon à Venise, mais le statut de la Biennale la rend indépendante du gouvernement.
J'en prends acte, mais en tant que ministre de la Culture, je considère que l'art dans une autocratie n'est libre que si c'est un art dissident. Quand ses représentants sont choisis par les responsables d'une autocratie, il n'y a pas cette liberté nécessaire à l'expression artistique.
Alors cette indépendance de la Biennale à l'égard du gouvernement est-elle absolue ? L'an dernier, une autre institution de même nature avait invité le chef d'orchestre proche de Poutine, Valéry Gergiev. Elle avait fini par renoncer sous la pression.
Bruno Duvic en direct de Rome, merci. 6 morts et 5 blessés dans l'incendie volontaire d'un bus hier soir en Suisse. Le drame a eu lieu à Chiètre, dans le canton de Fribourg. À l'origine de l'incendie, un passager d'une soixantaine d'années qui s'est immolé à l'intérieur du car. Il s'est aspergé d'un produit inflammable qu'il avait dans ses affaires. La police suisse évoque un homme marginal et perturbé. Elle exclut la piste terroriste. À 4 jours du premier tour des élections municipales, nous poursuivons ce soir notre série de reportages sur les enjeux dans les grandes villes. Après Strasbourg et Lyon, nous sommes à Nîmes, préfecture du Gard. Nîmes qui a la particularité d'être la seule ville de plus de 150 000 habitants détenue par le parti Les Républicains. À 80 ans et après 4 mandats, le maire sortant Jean-Paul Fournier ne se représente pas. Et la droite nîmoise part en ordre dispersé pour tenter de conserver la mairie. Une division qui pourrait profiter à la liste de la gauche hors LFI, emmenée par le communiste Vincent Bouget. Mais le RN, Julien Sanchez, est lui aussi en embuscade pour prendre la ville à la droite. Le reportage anime de Nicolas Balu.
Ne demandez pas à Julien Plantier, ancien premier adjoint au maire Jean-Paul Fournier, si sa candidature pourrait faire perdre la droite.
Ah oui, vous commencez bien. Non, moi aujourd'hui je suis candidat pour l'élection municipale, non pas contre qui que ce soit, mais avant tout par rapport à un projet.
Le juriste Julien Plantier a depuis longtemps déclaré sa candidature à la succession du maire. C'était il y a un an, bien trop tôt, estimait Jean-Paul Fournier. Le candidat s'était vu retirer toutes ses obligations. Et depuis, les choses en sont restées là.
Une succession se déroule, elle aurait pu mieux se dérouler si elle était mieux préparée. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, cette succession, elle est assez incertaine. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que je défends un changement de pratique, un changement de méthode. Une nouvelle génération doit arriver à la tête de cette ville.
Le maire sortant a préféré Franck Proust, ancien député européen, président de la communauté d'agglomération, puis son premier adjoint.
Mon ex-collègue qui était premier adjoint a voulu tenter son aventure seul, alors j'ai tendu la main, l'union n'a pas été possible.
Côté face, Jean-Louis Fournier laisse derrière lui un centre-ville rénové, un musée de la romanité, des équipements publics, mais aussi, disent ses adversaires, comme le candidat et les filles Pascal Dupré.
Derrière, les habitants qui y vivent sont beaucoup moins bien traités. Et ce qu'on constate, c'est une ségrégation, c'est une inégalité de traitement entre les quartiers nîmois et nîmoises. Et donc on a deux villes en fait à Nîmes.
Si Julien Plantier s'est allié avec Renaissance, Franck Proust est adoubé par LR et Horizon, et c'est sous le prétexte de cette division de la droite que l'architecte de ces municipales pour le Rassemblement National, Julien Sanchez, décide de se présenter. C'est de cette manière qu'il annonce sa candidature au Nîmois.
La droite prend le risque de faire passer le Parti communiste. Rien ne se fera à Nîmes sans le Rassemblement National. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important de vous offrir un candidat qui rassure les Nîmois.
À Nîmes, c'est le PC qui est la force dominante de la gauche. La ville a d'ailleurs été dirigée entre 1995 et 2001 et un peu plus tôt, entre 1965 et 1983, par le Parti communiste. Et aujourd'hui, c'est bien la liste de gauche, hors LFI, emmenée par le communiste Vincent Bouget, qui est en tête dans les sondages. Pour lui, la ville est devant de nombreux défis.
Aujourd'hui, on a une ville qui est à la fois fracturée selon ses quartiers, avec un taux de pauvreté qui est important. Puis c'est une ville qui doit s'adapter au réchauffement climatique. C'est une ville qui est, dont le pouvoir est très vertical. Et enfin, je pense qu'il y a une chose qui est très fédératrice, c'est de s'occuper de notre jeunesse, vulnérable notamment quand il s'agit des trafics.
Car ici, même la gauche s'est emparée du sujet de la sécurité et du narcotrafic. La sécurité, c'est le thème principal de la campagne de Julien Sanchez, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Le candidat RN fait campagne sur son expérience de maire de Beaucaire et donc sur la sécurité.
Je m'engage devant vous à faire passer sur le mandat le nombre de policiers municipaux de 163 à 300.
Et en la matière, Franck Proust n'est pas loin de son rival d'extrême droite.
Même si on a la deuxième police municipale de France, la troisième ville la plus vidéosurveillée, avec 700 caméras, on peut travailler encore davantage avec la police nationale. On va utiliser les nouvelles technologies comme les drones.
Une quadrangulaire, voire une quinquangulaire, est en théorie possible. Et les résultats de dimanche seront déterminants à droite comme à gauche. Ainsi, le candidat LFI, Pascal Dupré, a tenté d'éloigner le plus possible durant sa campagne les polémiques nationales sur les antifascistes et les postures de Jean-Luc Mélenchon. Pascal Dupré sait qu'Antoine Bouget et lui devront se retrouver d'une manière ou d'une autre dimanche.
Je pense que c'est dans toutes les têtes. Hein. On l'a à l'esprit et je pense que c'est partagé.
Mais ne lui demandez pas encore ce qu'il fera au soir du premier tour.
La bataille pour la mairie de Nîmes, un reportage de Nicolas Balu. Ces élections municipales constituent bien sûr un temps fort pour les médias locaux qui suivent au quotidien les évolutions de la campagne dans leur zone de couverture. Des médias fragilisés, selon Reporters sans frontières. Dans un rapport publié ce matin, l'ONG évoque deux périls principaux pour la presse locale. La chute des ventes et la concentration des médias. Faouzi Trita, pour RSF, la réduction de l'information locale menace le débat démocratique.
Reporters sans frontières alerte sur l'extension de désert de l'information dans certains territoires. Entre 2013 et 2023, la presse départementale a perdu 20% de ses journalistes, 9% pour la presse quotidienne régionale. Laure Chauvel est la responsable du Bureau France de RSF.
Aujourd'hui, on voit beaucoup de médias en redressement ou en liquidation judiciaire, faute de moyens financiers, avec des coupes de subventions publiques, le retrait des annonceurs traditionnels qui se tournent vers les plateformes numériques, par exemple.
Le pluralisme recule fort. Désormais, 9 groupes contrôlent 47 des 51 titres de presse quotidienne régionale.
Cette concentration des médias, elle a un impact sur le pluralisme de l'information et donc sur le droit des citoyens à pouvoir accéder à une information pluraliste et donc à pouvoir s'insérer sereinement dans un débat démocratique sain, ce qui est important là notamment en amont d'échéances électorales importantes dans quelques jours.
RSF évoque aussi des pressions plus subtiles comme les procédures dites Bayon, 22 procédures contre Mediacité par exemple, le site d'investigation local.
Les procédures Bayon, en fait, elles ne visent pas à gagner. Pour les personnes qui attaquent, le but qui est poursuivi, c'est très nettement d'asphyxier financièrement très souvent des petits médias avec des accumulations de poursuites en diffamation.
Mais RSF croit en l'avenir de la presse locale puisque l'ONG demande à l'État un plan national en repensant le système d'aide à la presse pour cibler les plus fragiles. L'ONG veut aussi obliger les collectivités territoriales à dépenser la moitié de leur budget publicité dans la presse locale.
Explication signée Faouzi titre Rita. La banquise de l'Arctique est sur le point d'enregistrer l'un de ses pires hivers jamais mesurés, montrent des données satellites américaines analysées par l'agence France Presse. Ce recul de la banquise est une nouvelle manifestation du réchauffement climatique d'origine humaine dans une zone au centre de tensions géopolitiques majeures. Un mot du temps demain, retour au calme. Le soleil dominera sur la plupart des régions après la dissipation des brouillards matinaux, mais le vent se renforce à l'ouest de la Bretagne à la frontière belge. Demain matin, il fera entre 1 et 11 degrés du nord au sud. L'après-midi, le thermomètre oscillera entre 12 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique, Alexandre Dang.